lecture du premier paragraphe du 11e chapitre du Mishnah Torah que nous avons commencé avant-hier. Et comme nous avons fait pas juste une séance, je ne vais pas tout lire, mais quelques passages que je vais vous indiquer immédiatement et qui me semblent indispensables quand même à l'introduction de la conférence de ce soir. Alors, dans le premier paragraphe, nous sommes arrivés à peu près au verset que cite Maïmonide pour parler de la fonction, disons, centrale ou essentielle par laquelle se définit le Melech HaMashiach, le roi Messie qui est attendu, et qui est le rassemblement des quelques lignes qui arrivent avant la fin de la page, c'est la première page. Donc, recommençons à étudier le verset. Melech HaMashiach, a-t-il la Hamod, le roi Messie, donc littéralement, ça veut dire le roi loin, reconnu comme légitime. A-t-il la Hamod, dans l'avenir, se dressera et destiné à apparaître, ou la Hzir Malchut David de Yerushalayim. Et à ramener la souveraineté politique qui s'appelle Malchut David, la royauté de David, les Yoshna, dans son état antérieur. Je ne reviens pas sur les analyses de définition, je pense qu'elles sont suffisamment claires. Les mêmes Shallah à Rishona, dans son gouvernement premier. C'est évidemment une notion de souveraineté politique qui mettrait fin, du point de vue de cette catégorie historique, à ce qu'a été la période de dispersion et la période de l'exil. Ou Bonnet Hamikdash, deuxième étape, construira le sanctuaire, où Mekabet s'imitera Israël et rassemblera, nous traduisons habituellement approximativement les exilés d'Israël, mais je vous rappelle qu'il y a une différence de sens entre Golé Israël et Mitré Israël, et que là il y a peut-être pas tous les exégètes de Maïmonide, les commentateurs de Maïmonide seraient d'accord, et comme nous allons rapidement, je vous signale le problème, il y a allusion aux 10 tribus perdues beaucoup plus que aux exilés du peuple juif, qui sont les Golim. Les Hozrim, Kol HaMishpatim Beyamav, Kesheriyu Mikodem. Et, littéralement, toutes les lois de justice, Mishpatim, c'est-à-dire la juridiction de la Torah, retrouvera son importance comme c'était auparavant, c'est-à-dire dans les temps où la société d'Israël, en Eretz Israël, avait comme constitution légale la Torah elle-même. Et donc, il y a un certain nombre d'étapes de restauration d'une société hébraïque telle que l'a décrit la Torah promulguée pour Israël dès le temps de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire dès le temps où le peuple d'Israël, ayant achevé sa première expérience de dispersion et d'exil en Égypte, dans la civilisation égyptienne de ce temps, a été constitué en masse. Tout cela, nous l'avons vu assez en détail précédemment. Makribin Korbanot. Et on offrira les sacrifices, vers Osim, Shmitin, Veyorlot, et on pratiquera la Shemitah et le Jubilé, Kechol Mitzvatah Amora Batorah, selon toute son ordonnance, telle qu'elle est dite dans la Torah. C'est-à-dire, encore une fois, je ne le répéterai plus, il s'agit de l'espérance que l'on pouvait considérer comme utopie, pendant longtemps et à travers le temps, d'une société humaine, le peuple d'Israël, dont la constitution, dans tous ses détails, à tous les niveaux des secteurs du comportement de la vie d'une société, serait la Torah elle-même. Je crois que cette première définition est très importante. C'est le premier signe auquel on reconnaît qu'il y a là un événement d'ordre messianique, comme nous avons l'habitude de dire, d'employer ce terme, dans la théologie juive depuis toujours. Je signale en passant, je reviendrai dans la conférence de ce soir, que dans l'exposé de M. Naon, lundi soir, il y avait peut-être un mot qui n'a peut-être pas été suffisamment entendu lorsqu'il a parlé de l'historique des faux messies dans l'histoire que l'histoire juive a connue, par exemple Charlatan Tzvi, Franck, Bar Kokhba, non, non, pas dans cette catégorie, le terme de la position antinominaliste du faux messie. Et je ne sais pas si ça a été suffisamment clair dans cet exposé, je voudrais dire que c'était un point très important de l'analyse de M. Naon. Effectivement, le signe auquel on reconnaît qu'il ne s'agit pas du Melech HaMashiach dont parle notre tradition, et ici nous avons le texte de Maïmonide, mais il peut y en avoir d'autres formulations, c'est qu'il s'oppose à la Torah en tant que constitution. C'est cela que signifie antinominalisme du faux messianisme dans le langage des historiens des religions. Le nominalisme étant l'attitude qui consiste à adopter la loi comme étant le critère et l'ordre des valeurs. Nous avons à parler de ce point ce soir, puisque dans la messianité chrétienne, il y a bien évidemment une position antinominaliste qui est formulée d'une manière très différente que, par exemple, le vocabulaire ou les prétentions premièrement hérétiques du chabatéisme ou du franquisme. Mais il n'y a pas de doute qu'il y a là aussi un antinominalisme de principe qui apparaît dès la première lecture. Nous aurons à nous en expliquer ce soir. Et là, je vous avoue que l'expression qu'on peut maïmonide me gêne un peu, parce que je ne sais pas comment vous l'expliquer tout en restant moi-même. C'est ceci. Et tout celui qui ne croit pas en lui, or ça nous gêne beaucoup, les juifs traditionnels, traditionnaires et traditionnalistes, qu'on nous dise que l'on croit en quelqu'un, qu'il soit autre que Dieu lui-même. Je crois que ça veut dire celui qui ne croit pas qu'il viendra. C'est Emon Ma'amin Bo.
En cela.
Et ici, Bo, c'est lui.
Oui, mais enfin, on pourrait traduire en cela, Bo.
Oui.
Dans sa veine.
Oui. Oui, c'est ça, mais c'est une explication. La traduction littérale, c'est celui qui ne croit pas en lui. J'hésite de vous dire cela parce que j'ai tout un débat. J'hésite de vous dire très rapidement. Les 13 articles de foi de Maïmonide, attribués à Maïmonide. Parce qu'il y a une controverse de savoir si la formulation des Joshua Sremido de Anima Ami, et soit vraiment de Maïmonide lui-même, mais adoptant cette tradition qu'il s'agit de Maïmonide lui-même. Alors là, c'est très clair. Ani ma'amin bebiyat ha-mashiach. Je crois, j'ai foi dans la venue du Mashiach. Ça n'a aucun sens pour la sensibilité traditionnelle juive de dire qu'on croit que quelqu'un est ce qu'il est, ou il est ou il n'est pas. Et cette catégorie de croire dans le Messie est extérieure au vocabulaire traditionnel juif. C'est déjà christianisant.
Essentiel dans le christianisme.
Oui, justement. C'est-à-dire, comment expliquer ça, peut-être pas par une image. Lorsque il fait jour, je ne crois pas qu'il fait jour. Il fait jour. C'est-à-dire, nous n'avons pas à croire en quelqu'un. Mais il y a la foi. Dans le sens de l'espérance que ce quelqu'un que nous attendons viendra et quand il vient, c'est lui ou c'est pas lui. Il n'y a pas à croire s'il est lui ou à pas croire s'il n'est pas lui. Vous comprenez mais gardons quand même l'expression telle qu'elle nous est donnée. J'étais en train de réfléchir et peut-être qu'il nous aidera à préciser cela. Si les chemins pratiques ont été écrits directement en hébreu par Maïmonide ou en arabe, ça je me souviens.
Ils ont dû être écrits en hébreu puisque le Mishneh Torah est écrit en hébreu, contrairement au livre qui est écrit en arabe et traduit.
Attendez, non.
D'accord.
D'accord. Oui. Alors, si c'est écrit en arabe, c'est pas grave, on remet ça en hébreu. Maïmonide va bien. Oui, je m'en apprécie.
Mais comme c'est émotif. Ici, nous sommes dans le Mishneh Torah.
Dans le Mishneh Torah.
Il y a des gens d'hébreu directement, il n'y a pas de problème ici. Le Mishneh Torah, il n'y a pas de marloquet.
Ce texte, c'est le texte d'Imtibon.
Non, c'est le Mishneh Torah, ça a été écrit directement en hébreu, c'est tout, nous ne sommes pas sur les pratiques ici.
Ah, excusez-moi, c'est
moi. Nous sommes dans le.
Oui, non, c'est la chaleur.
Ici, là, on ne peut pas se servir de
ce texte. C'est pas grave, c'est la chaleur. Alors, je reviens au problème. Donc ici, mais. Vous savez, je vous donnerai une référence en passant. C'est un midrash très important qu'il m'arrive de citer. C'est quand Moïse lui-même, dans le texte de la Torah, dit, parce que Dieu le charge de retourner en Égypte pour sauver Israël, Rehem lo yaminu, comment c'est écrit? Biouli. Je n'ai pas chez moi. Rehem lo yaminu. Bi. Oui, et là le Midrash intervient, c'est la même expression, Réel et Aminoubi ne croiront pas en moi. Le Midrash intervient en disant qu'il y a là une faute, parce qu'il ne s'agit pas qu'il croit en lui, mais on croit qu'il croit en ce qu'il dit. Vous voyez la différence. Bon, je referme la parenthèse parce que nous avons beaucoup de textes à lire. Vous vous souvenez de ce Midrash qui explique pourquoi Moïse a été frappé de la lèpre. Hein? Rappelez-vous, au moment où Dieu lui donne ce signe de l'impureté, de la pureté. Vous vous rappelez du contexte? Alors, Midrash explique qu'il y a là un problème. Au Mishéno Mechakel Eliato, mais la Maïmonide nous aide à le comprendre, celui qui ne croit, n'attend pas sa venue, Lo bishar nevim bilva de kofet, ce n'est pas seulement dans ce corps qu'ont enseigné les autres prophètes, les renégats, et là, la Torah de Moshe Rabbeinu, mais dans la Torah, et en Moïse, non, notre maître. J'arrive à Torah Eïda, puisque la Torah a témoigné. Et Allah a témoigné en ce qui concerne lui, le Melech HaMashiach, chez Nehemar, d'après le verset suivant. Et là, nous avons étudié ce verset, et je dois signaler que lundi, nous avons une précision de sens qui n'est pas du tout claire de ma part. Je reviendrai sur le pshat, sur ce verset. Veshav Hashem Elokecha Shebutcha. Et Hashem, ton Dieu, ramènera ton repos. C'est ainsi que j'avais traduit. Hein? Et là, Michel a dit, non, il faudrait traduire, reviendra avec ton retour. Et très rapidement, j'avais dit, mais je me base sur Rachid. Nous allons revoir Rachid tout à l'heure. Effectivement, du point de vue grammatical, le texte aurait dû porter Vehefir. La forme factitive, nous en pensons Vehefir, faire une action, c'est Vehefir. Et Vehefir de cette racine, c'est Vehefir, il ramènera ton retour. Je veux dire que si nous devons lire le verset dans le sens habituel que vous avez d'ailleurs dans les traductions et duquel je me suis servi lundi, en le traduisant « Et Dieu, Hachem, ton Dieu, ramènera ton retour », il faudrait que le texte porte « Veheshiv Hachem et Tchevoutra ». Or, il y a écrit « Veshav Hachem Elokecha et Tchevoutra ». Le mirage que cite Rashi va éclairer le pshat du verset. Et nous allons le voir immédiatement tout à l'heure, mais je vais d'abord lire le verset. Et si nous lisons littéralement, il faudra traduire à la manière du mirage et Hachem, ton Dieu, Shav, reviendra et tchevoutra, et le et ici ne serait pas l'indication de l'accusatif, du complément d'objet, mais le mot et qui signifie comme haïm en hébreu, avec. Et nous devons lire, nous allons le voir avec Rashi, et Hachem, ton Dieu, reviendra avec ton retour. Mais très rapidement, encore une fois, lundi, j'ai utilisé la lecture habituelle, à cause de l'économie du texte de Maïmonide, comme je vais essayer de le montrer tout de suite. Pourquoi Maïmonide cite ce verset? Pour nous dire qu'il y a allusion au Messie et à sa fonction principale dans la Torah elle-même, ou dans un verset où apparemment, et nous allons le lire en détail, il n'est pas fait du tout allusion à un Melech Mashiach, mais au retour des exilés. C'est bien clair? Et donc, c'est pourquoi nous allons commencer par lire, non pas le pshat strict, mais les traductions habituelles, et Hachem, ton Dieu, ramènera ton retour. Verichamcha aura miséricorde pour toi. Le sens traditionnel du terme hébreu employé ici, ça veut dire, il te rendra fécond. C'est pas simplement un sentiment de pitié, un sentiment de prise en compassion, un sentiment de prise en miséricorde. Le mot que nous traduisons par miséricorde, compassion, pitié, rachamim, se rattache à la racine qui signifie la matrice. C'est le sentiment de la matrice pour son enfant. Mais la matrice, c'est premièrement le lieu de la fécondité. Verichamcha, ça veut dire te rendra fécond. Veshav vekibetzra, vegomel. Et de nouveau le même verbe. Et là, il y a une autre nuance. Lorsque une action se fait deux fois, alors l'hébreu a l'habitude de dire, Veshav, il reviendra sur le premier comportement pour le refaire une deuxième fois. Veshav, Hashem Elokecha et Shevutra, premier retour. Veshav vekibetzra, et de nouveau, de plus, encore, shuv, vekibetzra, il te rassemblera. Et, imiye nidahacha, bikse hachamayim. Et si ton exil est à l'extrémité de la terre, près du ciel, vehiliacha, Hashem Elokecha. Alors je vous lis le verset in extenso, et nous allons lire le rachis lui-même, et continuer. Bon, je l'ai. Oui. Le verset dit ceci. Ah, excusez-moi. Je crois que j'aurai le remis. Je vous donne donc la référence, c'est le verset 3 du chapitre 30 de Dvarim, dans la paracha de Nitzari. Veshav Hashem Elokecha et Shevutra, Vilchamcha, Veshav et Kibetzra Mikol Ha'amim, Asher et Fitzra Hashem Elokecha Shama. Comment était le verset 10? Ah, tu n'as pas dit. Bon, on va chercher. Verset 4, il n'y a ni dire, ni d'achacha bikhtia shamaï, et quand bien même le fait d'avoir été repoussé, ni d'ach, ton exil, est à l'extrémité du ciel, misham, de là-bas, il kabetzra Hashem Elokecha, Dieu te rassemblera, et on y nous lit. Très bien. ינידחך בכסה שמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך. והביאך השם אלוקיך, והשם תונגי אותו רע מעינך, אל הארץ אשר יחשו אבותיך, ופי ונטפר ואיריתה, וירישתה, ותנפרה איריתה, והטיפך וירבך מערותיך. Et il te fera du bien et il te multipliera plus que tes pères. Ensuite, il y a la suite du programme où mal Hachem alokecha et l'arorecha. Et Hachem, ton Dieu, circoncira ton cœur. Et là, c'est la teshuva, le repentir spirituel. Il y a d'abord le retour, Shivat Zion, physique, historique. C'est bien clair. Alors, je reviens au verset pour la précision de Rashi. Et retenons bien que le problème dans l'enseignement de Maïmonide, c'est qu'il n'y a aucune allusion à un roi messie qui organiserait ce retour. C'est Dieu lui-même qui fait ça. C'est ce quoi j'ai un peu trop peut-être insisté la dernière fois, mais je pense que c'est clair. Et voilà quel est le verset qui est employé, le terme qui est employé dans le verset, « Véchard, Hachem, le Tétra et Féloud ». Allons donc voir tout de suite Rashi. « Ayanou l'Irtov v'Echiv » Le texte aurait dû porter « Il te ramènera, il ramènera ». Le Yifril du verbe. Veshiv et Chemoutra, il ramènera ton retour. Et voilà la suite de Rachid. Rabotez-nous, Amis, nos maîtres, on t'a pris et nous enseigne à partir de là, Mekam, Kiryachol, pour ainsi dire, chez Ashrina, Ashruya, in Israël, Betzarat Galutam, que la Shrina, la présence de Dieu au monde, se trouve avec Israël dans la Galut. Dans leur galut, dans leur exil. Ceux qui ont assisté à l'étude du matin, vous rappelez de la parenthèse que nous avons eue à ce sujet, sur le sujet lui-même. Pour Chéri Galim, et lorsqu'ils sont délivrés de l'exil, actifs, il est écrit Géoula le Hatzmo, il est écrit délivrance pour lui-même, pour Dieu lui-même. Chez nous, Yashuv et Macher. Ça signifie qu'il reviendra avec eux. Et la portée de ce Rashi qui est considérable. J'ajoute quand même la suite de Rashi, de la Rogue Shoma. Et Rashi dit il y a aussi à ajouter, à dire, chez Gadol Yom Kibbutz Galuyot, que le jour du rassemblement des exilés est un jour grand, Gadol, ou Bekoshi, est difficile, et il nous roue à son mot, comme si lui-même, Dieu lui-même, Tsarir doit, Yot Ochel Beyadav Mamash, prendre par sa main Mamash, réellement, chacun, ish, ish, mimekomo, chacun de son endroit, keinyan sheneama, keinyan sheneama, d'après ce que dit le verset de Isaïe, au chapitre 19, verset 28, non, chapitre 17.
C'est 27, verset 12. 27, 12.
Oui, chapitre 27, verset 12. Vertem, telaketu lecha lecha v'bnei Israël. Et vous serez glanés un par un, vous les enfants d'Israël. Et donc la portée de ce que dit Rashi à propos du fait que le verset a dit « Veshav Hashem Elokecha et Shemitra » et « Hashem ton Dieu reviendra avec ton retour » pour dire « Il ramènera ton retour ». C'est plus clair maintenant.
C'est bien,
c'est évident.
C'est bien, avec un sens de calme.
C'est évident. Mais ce calme est bécoché.
Absolument. Oui, d'accord.
Ce calme entraîne un déroulement de sens important. J'en profite, puisque nous avons ce rachis sous les yeux, pour ceux qui l'étudient, c'est un espèce de mystère, la fin,
oui.
Ce que je n'ai pas encore lu, pour essayer de vous l'expliquer. Si j'y arrive, vous me payez un coup. Parce que c'est vraiment un rachis. Veaf, de Galouyot, chez Araoumo, et même dans l'exil des autres peuples, Matsinik, nous avons trouvé la même expression, le Chasti, et de la lutte noire, là c'est de noir qu'il s'agit, mais je n'ai pas la suite du texte. Et là, effectivement, c'est un mystère, et je vais essayer de vous l'expliquer d'après l'enseignement du Rav Kook. C'est-à-dire, tous les peuples, où la difficulté d'abord. Est-ce que ça veut dire que lorsque Moab est exilé de la terre de Moab, la Shrina va en exil avec le peuple de Moab, parce que Moab n'est pas sur sa terre. C'est ça la difficulté. C'est clair. D'accord, c'est ça le problème. Au cours du 11e chapitre de la Genèse, ou après l'épisode de la terre de la tour de Babel, la Torah nous explique, la Torah nous explique que l'unité humaine a été brisée
que a commencé la grande histoire de la diaspora des nations, de l'humanité une qu'il y avait jusque-là, et à laquelle la Torah indique très clairement, fait allusion très clairement, l'état de l'humanité, c'est qu'il y avait une unité de tout le genre humain à travers la différenciation spécifique des génies de chaque peuple selon leur langue et selon leur terre. Et lorsque, après l'échec de la civilisation de Babel, qui est indiqué dans le récit de la tour de Babel, dont le résultat a été, comme vous le savez, la confusion des langues, et l'état de dispersion des nations, c'est pourquoi je dis souvent, que nous devons le reprendre encore cette fois, qu'il y a une sorte de cliché qui voudrait que la manière naturelle d'exister du peuple juif, ce serait d'être en dispersion, selon la Torah, c'est la manière naturelle d'exister des goïms, des nations, après l'épisode de la tour de Babel. Et la dispersion d'Israël, qui a, elle, une fonction messianique, est une dispersion seconde greffée sur la dispersion humaine antérieure. Est-ce que c'est suffisamment clair? En réalité, ce sont les goïms qui sont en diaspora. Et le peuple d'Israël est envoyé en mission en diaspora dans la diaspora des goïms. Mais cette étape, qui est l'étape de la galoute, est une première étape du processus messianique, la deuxième étant l'étape de Géoula, de délivrance de cette première étape. Et ça signifie donc qu'il y a un endroit naturel pour chaque peuple. Je crois que c'est l'essentiel de la réponse. Et lorsque Moab ou d'autres peuples sont en exil de leur propre terre, il y a aussi quelque chose de cet ordre. L'exil de la Shrina du Dieu unique pour Moab est en exil comme Moab est en exil. Je crois que ça renforce, si vous voulez, la spécificité, le caractère unique de l'histoire d'Israël. Dans le principe auquel nous faisons allusion souvent, c'est l'histoire des hommes. Et donc, nous retrouvons les schémas et les structures de l'histoire des hommes. Israël vit cela au paroxysme de façon dévoilée. Je l'expliquerai peut-être de cette manière. Tous les hommes sont en exil. Mais c'est évident pour les juifs. Et il suffit de se rappeler que le premier exil, c'est l'exil du premier homme du Jardin d'Éden. Plus profondément, métaphysiquement, c'est l'exil de la situation de créature, de la condition de créature. Avoir été créé, ça veut dire avoir été éloigné du créateur. Il y a une finalité à cela, il y aura un retour, mais le sentiment existentiel de la situation de créature, c'est une situation d'exil. Et c'est vrai pour tous, seulement c'est évident pour les juifs. Je crois que le principe est clair. C'est-à-dire qu'Israël vit à l'échelle de paroxysme, en portant le témoignage dévoilé, de ce qui est la condition humaine en général. Et donc, lorsque le peuple de Moab est en exil, il y a un aspect de la Shrina du Dieu unique qui est en exil, parce que Moab est en exil de la terre de Moab. Et la difficulté de Rachi, c'est pourquoi Rachi a eu ce souci de nous dire que c'est vrai aussi pour les autres. Je ne sais pas si j'ai complètement expliqué le problème, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre dans ce sens, et j'inverserai le principe. Et si c'est vrai que la condition humaine en général est une condition d'exil lorsque les peuples sont en exil de leur terre normale, c'est d'autant plus vrai pour Israël qui ne peut être chez lui que chez lui. C'était aussi dans la chien en filigrane. Vous avez une question rapide?
Non, c'est pas une question. Il y a quand même deux niveaux de préoccupation. D'une part, le Midrash.
Continuez.
Il saisit le fait qu'il y a un cas de la paternalité.
Oui, mais si vous êtes familier, très bien. Mais si vous êtes familier avec Rashi, vous savez que Rashi prend toujours le prétexte, une remarque de grammaire toujours très exacte scientifiquement, pour donner un enseignement. Okay? Et pas seulement Rashi, même des commentateurs apparemment que grammairiens, qui bien apparemment, comme Rashbam, qu'on les bénézera parfois, ils ont un souci de Torah derrière le. Derrière l'apparence qui serait qu'il prendrait, si j'ose dire, le texte de la Torah comme un prétexte d'exercice de grammaire. Vous comprenez le problème? Et, simplement je précise, ce midrash-là nous donne le pshat. Vous avez bien compris. Dans le pshat, il y a écrit le shav. Et nous n'osons pas lire le pshat. Parce que ça voudrait dire que Dieu est en exil. Alors le midrash nous dit, oui, dis le pshat. Parce que si le verset avait voulu dire « il ramènera ton retour » et que cela, il aurait dit « vérifie-le ». Comme il a dit « Réchav », ça veut dire qu'il faut apprendre qu'il y a écrit « Réchav » et que donc, lorsque le peuple d'Israël revient, ça veut dire que Dieu revient. Ah oui, il y a dans la Gemara une indication qui va peut-être dans ce sens. Dans la Gemara de Sanhedrin, on pose la question, à quel signe on reconnaît que les temps messianiques arrivent? À quel signe on reconnaît que, qu'est-ce qui peut nous faire, nous assurer que vraiment l'exil prendra fin et qu'en fin de compte le Messie viendra? Et on donne des quantités d'explications, des quantités de signes, toutes énigmatiques, sibyllines, okay? C'est dans plusieurs pages dans Sanhedrin, et puis finalement il y a une indication. Je n'ai pas recherché cette référence, mais on pourra vous la trouver qui veut. D'ailleurs, je sais que non, je passe à l'église, on peut l'amener. C'est en tout cas dans le chapitre 11. Que Dayo Laevel Mehevlo. Dire, je m'excuse d'avoir cité ça, c'est inconscient. Enfin, ça veut dire, quelqu'un qui est en deuil ne pourra pas rester éternellement en deuil. Dayo Laevel Mehevlo. Et Rachid donne deux explications. La première concerne le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est en deuil quand il est en exil. Le deuil, c'est Israël. Et c'est une situation de deuil, parce que l'exil est une situation de deuil. Et que finalement, c'est sûr que ce deuil prendra fin, parce qu'il arrivera un moment, le peuple d'Israël lui-même en aura, comme on dit en français poli, marre de son deuil. La question est de savoir s'il n'y a pas le risque d'une faute d'anticipation, parce qu'il y a les lois du deuil, et il y a les 7 jours, il y a le mois. Et... Donc la question est ce risque de la faute d'anticipation. Violer l'ordonnance des étapes. Mais en fin de compte, il y aura sûrement un gueule là. On sortira de ce deuil de l'exil. C'est comme si Rachid, dans cette première lecture, voulait dire on peut faire confiance au peuple d'Israël que lui-même décidera qu'il ne peut plus rester en deuil. Alors tant qu'il est en deuil et il est bien dans son deuil, Dieu attend qu'il est en deuil, qu'il est en deuil. Mais le jour où Israël décide, le deuil est fini, deuxième lecture de Rachid, c'est Dieu qui décidera que lui, étant en exil dans ce deuil d'exil d'Israël, mettra fin à son propre exil, à son propre deuil. Donc on est tranquille des deux côtés. Je dirais peut-être d'une autre manière. Tant que l'identité juive est reliée à la prophétie hébraïque, selon laquelle c'est un événement historique que Dieu a parlé aux hommes, et si cette parole s'est tue depuis si longtemps, que fait-il pendant ce temps-là? Il y a des réponses dans la tradition. Okay? Mais par le fait que c'est vrai qu'une fois il y a eu ce dévoilement, alors c'est vrai que le monde est normal malgré toutes les apparences. Et si le monde est normal malgré toutes les apparences, puisqu'une fois il a été normal, que c'est un monde créé par un Dieu normal, si la prophétie hébraïque a duré, alors la situation d'anormalité par excellence, qui est pour un peuple d'être en exil de sa terre, prendra fin. Ça peut être dit de cette manière aussi. Et donc on peut être rassuré que tant que les Juifs sont existants, ils portent en eux la promesse de la fin du monde. Parce que le fait de refuser l'existence juive met fin à cette histoire. Mais tant que le juif se perpétue dans cette existence qu'il sait anormale et difficile, c'est qu'il porte en lui l'exigence d'un jour sans son âme. Et bien sûr, le faux messianisme au niveau de la première fonction retour de l'exil sera un retour anticipé. Et là, il peut y avoir un débat. Bon, c'est clair. Et d'un autre côté, on peut être assuré d'une manière moins philosophique, sociologique peut-être, plus mystique, religieuse. Mais vous voyez, Rachid a donné les deux lectures en disant, si c'est vrai qu'un jour Dieu s'est révélé aux hommes, eh bien c'est sûr qu'il n'a pas pu les oublier. Donc il arrivera qu'un jour Dieu mettra fin à son propre silence. Ce sont deux types de la foi, peut-être l'une est plus Joseph, l'autre est plus Judas pour le vocabulaire du matin, mais dans les deux cas c'est Dayo Laevel Mehevlo. Et donc, cette indication de Rachid est qu'il y a une anormalité lorsque tout peuple, quel qu'il soit, et il donne l'exemple de Moab, est loin de sa terre. C'est moi qui ajoute, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'Israël. Parce que ne reste aucune trace dans la mémoire de l'humanité que Dieu ait, avec une telle insistance, il a fait pour nous, promis à Moab et attesté à Moab que la terre de Moab, c'est la terre du peuple de Moab. Mais dans le cas d'Israël, l'essentiel de la révélation, c'est pour dire ça. C'est vrai. Peut-être que c'est l'intention de Rachid, mais il faudra préciser. En tout cas, c'est Rachid lu par des élèves du Rafouk. Mais au moins, il y a le commencement d'un étude. Alors en avant, je crois que ce verset, c'est suffisamment clair. Les lois de la rime, me fait Rachid la Torah. Et ces choses qui sont clairement dites dans la Torah, Kolelim, Kola de la rime, Shenehemru, Alébé, Kola Nevim. Récapitule. Donne l'ensemble de toutes les choses dites à ce sujet par tous les prophètes. Comme si Maïmonide voulait nous dire, on peut résumer tout l'enseignement des prophètes sur les temps messianiques en citant ce verset de la Torah. Je crois que c'est important de voir qu'il a mis en évidence que la première fonction messianique, la première parce que c'est toute une série d'étapes, comme vous vous rappelez, c'est le rassemblement des exilés. Et il nous donne un exemple que je crois important de lire assez en détail, un peu dans le sens de votre méthode, c'est-à-dire pour montrer que c'est l'habitude de la Bible de dire beaucoup de choses en parlant d'une chose précise. Mais de même que ici, la Torah a récapitulé la certitude de l'avènement messianique, premièrement l'assemblement des exilés, dans ce verset, de même, on va nous citer, Maïmonide va nous citer, dans le contenu de la prophétie de Bilham, que les temps messianiques sont déjà indiqués. Alors nous allons suivre un texte qui est pas une exégèse proprement biblique, un peu aride, parce que la forme du texte est une forme de très poétique, si je veux dire, plus poétique qu'il est que habituellement, mais nous allons essayer de le lire assez rapidement. Ah, le parasha de Bilham Néma, cela est dit aussi dans la parasha de Bilham qui est dans la Torah. Vesham Nuba Vishneh Meshichim. Et là, Bilham a prophétisé au sujet des deux messies. Et bien attention, les deux messies dont va parler ici Maïmonide, ce n'est pas Machiav ben Yosef et Machiav ben David que nous étudions le matin. Okay? Quoique, si nous avons suffisamment de temps, peut-être pas maintenant parce que nous avons beaucoup de textes à faire, mais ceux qui suivent les cours du matin, ceux-ci seront peut-être plus intéressés, posez-moi la question demain matin, vendredi matin, nous reprendrons l'analogie. Il y a quand même une analogie. Je vous citerai simplement une phrase si vous l'avez encore en mémoire. De quoi s'agit-il ? Dans Mashiach HaRishon, que Maïmonide nous explique que Bilham a parlé simultanément d'un premier Messie chez lui, David, qui est le roi David lui-même. Chez Oshia et Israël, et Israël Niatzareem, qui a sauvé Israël de ses oppresseurs. Dans Mashiach HaAharon, et du Messie dernier, chez Ahomed Nibanat, qui doit se dresser de sa descendance, de ses fils, chez Moshia et Israël Baharon, et qui délivrera Israël à la fin des temps. J'ajoute à la fin des temps de l'exil, vous avez dans votre texte le Baharona est entre parenthèses. Donc, on peut aussi lire cette indication même sans le dernier mot. Vesham Gourmet, et voilà ce que dit Bilham dans sa prophétie. El Eni Velorata. Je le verrai, mais pas maintenant. Bilham dit, au temps de la sortie d'Égypte, il dit, je vois, mais pas maintenant. Ça, et ici, Maïmonide cite des sources de l'Agmara, c'est David. Là, dans la première partie du verset, je le vois, et pas maintenant, ça c'est David. Ashurenu velokaro, je le contemple, mais c'est pas proche. Zemelech HaMashiach. Ça, c'est le roi Messie dont nous parlons de la fin des temps. Il y a dans la formulation de cette prophétie, la même proposition chaque fois répétée deux fois. Oui, c'est par les lignes qui s'appellent. J'oublie. Et la prophétie continue ainsi. Barach Kochav mi Yaakov. Une étoile surgit de Jacob. Zedavi, ça c'est David. Vekam Shevet mi Israël. Et un sceptre se dresse d'Israël. Zemelech HaMashiach. Ça c'est pour le roi Messie. Je vais continuer, mais simplement préciser que, selon cette explication de Maïmonide, qu'il prend dans les sources du Midrash et de la Gemara, mais il juge que c'est nécessaire de le mettre en évidence, qu'il y a allusion au fait qu'un Messie ultime viendra dans ce parallélisme des versets. Umachat paate Moab, la suite de la prophétie de Bilham, il écrasera les sommets de Moab. Tiens, Moab, par hasard. C'est David, ça c'est David. Vechenu Omer, et nous le savons, ajoute Maïmonide, puisque le verset dit Vayach et Moab, Vaymadedem Bahérel, que David a frappé, a vaincu Moab et les a emprisonnés dans des cordes, dans des menottes, on dirait dans des liens. Alors, la suite du verset, le karkar kol ben eshet, et il renversera tous les fils de Shet, ze amelech HaMashiach. Ça, c'est le roi Mashiach ultime, Shenema Obo, de qui il est dit, ou Mashlo Miyam Adyam, dans le prophète Zacharie. Et son gouvernement ira d'une mer à l'autre. Et on aura d'ailleurs un canal entre les deux mers. Vayah Edom Yerasha, et Edom sera son héritage, ze David. Là, il s'agit de David. Et ainsi qu'il est dit à propos de David, Batei Edom, le David, la Havadim. Et Edom est devenu esclave de David. Dans le deuxième livre de Shmuel. un servant, c'est la Torah. J'ai pas vu.
Non, il y a une correction à faire, c'est-à-dire que c'est bien marqué Edom dans le texte de Maïmonide, alors que le texte original, c'est.
Aram, quand je vois cela, mais
c'est. Pas sur Aram, et l'âme aura un saint Torah.
Mais c'est pas verset de la Torah, c'est de Shmuel.
C'est là.
Donc Shmuel.
Shmuel, ah, mais...
Bon, alors je continue. Veya Yerasha, et il sera son héritage, Zé Amelech Hamashi. Généma, Vealou, Moshe, Ilartion, je crois que c'est ça. Vous allez citer ce verset lundi après-midi. Oui, et à la fin de la prophétie de Ovadia, et Moshe, littéralement, ça veut dire les sauveurs. On traduit habituellement les rescapés, j'ai dû le faire ainsi d'ailleurs lundi. Moshe, ceux qui sauveront les hommes. Mais nous savons que ce sont les sauvés qui deviennent les sauveurs, on apprend d'ailleurs du nom même de Moïse, parenthèse, que les sauveurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne de Edom et en hérite. Voilà le premier texte que je voulais rappeler assez brièvement, et je mettrai donc en évidence de la manière suivante, c'est que la principale, enfin la première en tout cas, fonction messianique que les hymnes de Maïmonide, c'est le rassemblement des exilés, et je peux peut-être interpréter de cette manière, à partir du moment où le rassemblement des exilés se fait, et quelle que soit encore une fois l'interprétation de l'événement est là, il y a donc là un événement messianique. Ce que je mets en évidence, et nous reprendrons cela dans la conférence de ce soir, c'est qu'il semble y avoir une ambivalence entre deux notions. Un événement messianique et la personne du Messie. Or, c'est important de voir que Maïmonide, pour fonder l'espérance de la venue de la personne du Messie, cite un verset où il s'agit de l'événement que Dieu lui-même dirige. Voilà le premier. Mais changer de page et prendre un texte où Maïmonide parle des possibilités d'événements messianiques, mais qui pourraient échouer. Prenez dans la page suivante, le paragraphe d'Alain. Dans la deuxième feuille, page de gauche, paragraphe d'Alain. Et il y a Ramon de Mélech, Libet David. Et s'il se dresse un roi de la maison de David, Rogé la Torah, qui littéralement médite la Torah, étudie la Torah. Donc, pas question qu'il soit antinominaliste, selon la définition de Véarosé de Mitzvot. S'occupe des Mitzvot, non seulement pratique les Mitzvot, mais s'occupe des Mitzvot. Que David a vu, comme David son père, que si Torah chez Birtav, chez Véarpé, selon la Torah écrite et la Torah orale, Véachov Kol Israël. Et même tout Israël, l'élève bas à suivre le chemin de la Torah, ou le Hazek.
Bitka. La brèche. Bédé.
Ah, non.
Colmater sa brèche.
Non. Et réparer la brèche qui a été faite à la Torah, Vilachem Milchamot Hashem. Et fait les guerres de Dieu, Harezé Becheskat Sheu Mashiach. Celui-là est en présomption d'être le Mashiach. Vous tenez bien la première définition. Donc, si se lève un chef politique d'Israël, il y a une indication qui nous est donnée là, il est nécessaire qu'il soit de la descendance de David. Une indication préalable. Mais s'il se lève un chef politique d'Israël, qui entreprend le programme dont nous avons parlé précédemment, dans le fait même qu'il l'entreprend, alors il y a Heskat, il est Beheskat Mashiach. Ce sera un Mashiach présumé. On va voir la suite. On va attendre ce qu'il en advient. Im asa veitzliach, s'il fait cela et réussit, ou bana migdash bimkomo, et construit le temple en son endroit, et kibet mitre Israël, et rassemble les exilés d'Israël qui étaient restés dans le premier retour. Rappelez du verset précédent, veshav, veshav. Et d'abord un premier retour, c'est les juifs. Et après un deuxième retour, c'est les nidahim. C'est clair ce que je dis là. Il y a deux retours. Hein. Premier, c'est les descendants du royaume de Juda qui sont devenus les juifs de l'histoire. Le deuxième retour, c'est le rassemblement des 10 tribus perdues, ce qui se relie à toutes les traditions messianiques habituelles que vous avez certainement entendues. Alors si ce programme va jusque vous, Vitaken est à Olam Kulo, et Ça veut dire, si le programme va jusqu'au bout, alors il est le Mashiach, évidemment. Et le monde est transfiguré. Alors là, vous sautez deux lignes et vous allez prendre le paragraphe ici qui commence par le début d'une parenthèse, par un crochet de parenthèse. Là, l'édition que vous avez a restitué des passages censurés sur les éditions, l'édition habituelle. Et d'après ce que nous a expliqué Michel, l'éditeur, en restituant ces passages, ne les a pas remis exactement à leur place. Ce passage devrait commencer là où j'ai interrompu la lecture. Est-ce que dans les photocopies, on a mis les crochets?
Oui, c'est moi qui ai mis dans les photocopies. Moi, c'est pour indiquer l'endroit.
Très bien.
Tout le monde a les crochets.
Alors donc, les crochets que nous allons lire devraient arriver là et nous reviendrons. Et s'il ne réussit pas jusque-là, c'est-à-dire jusqu'au bout, au Néhérac, ou qu'il a été tué en cours de royauté, mais à Douar chez Enosé, alors c'est évident que ce n'est pas celui-là, chez Tira Alavatoa, de laquelle la Torah avait parlé dans ses promesses. Petite parenthèse pour ceux qui suivent l'étude du matin, vous rappelez de ce souci, de cette inquiétude, de cette angoisse que le Machar Ben Yosef soit tué. Rappelez-vous, cela était à... Alors, s'il est tué, ça veut dire si son aventure s'arrête parce qu'elle échoue. Exemple précédent que je n'ai pas traduit, vous verrez vous-même, Bar Kokhba. Bar Kokhba avait entrepris les étapes auxquelles fait allusion Maïmonide dans la révolte messianique, disons, entre guillemets, contre l'oppression romaine. Et Rabbi Akiva était avec lui dans les premières étapes de cette entreprise. Et puis il a été tué, ça a été stoppé. La catastrophe de Bétard qui a mis fin à la révolte de Bar Kokhba. Donc c'est stoppé, et puis ça a été renvoyé à la fin des temps. C'est-à-dire, s'il avait réussi, il aurait été le Mashiach. Selon l'explication très précise et très cohérente de Maïmonide. Et donc, nous n'avons pas imputé à Rabbi Akiva une erreur. Rabbi Akiva suivait un messie de présomption. Je n'ai pas dit un messie présomptueux. Présumé, voilà comment il faut dire. Et la tradition explique pour quelle raison cette aventure a échoué, en particulier